France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings, isn't it? Goodbye, everybody.
Is it just because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all you girls are bitches?
I guess.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, moi j'aime bien les vieux.
It's Anna. 金にも出世にもならん難しい戦があるんだがついてくるか。はい。
Did you find what you were looking for?
No, with two shots in his back and one in his stomach. Nobody important.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Aujourd'hui, l'élégant monsieur Paul Misraki. Bonsoir. Avec Ray Ventura et son orchestre, Paul Misraki a écrit des chansons qui sont restées dans toutes les mémoires. Mais sait-on qu'il fut également un compositeur pour le cinéma prolifique et brillant, qui réussit l'exploit de travailler aussi bien avec les ténors de la qualité française comme Jean Delannoy qu'avec les jeunes turcs de la nouvelle vague tels Claude Chabrol et Jean-Luc Godard. N'oublions pas non plus qu'entre autres faits d'armes, Misraki fut également le compositeur de Monsieur Arkadine, un des joyaux de la filmographie d'Orson Welles, auquel on rend hommage en ce moment même à la Cinémathèque française, entre autres. Bref, cet homme délicieux et élégant, ce musicien aussi à l'aise dans le jazz que dans le répertoire symphonique, méritait qu'on lui rende justice dans Cinéma Song. À la fin de cette émission, Charles-Pierre Vallière évoquera dans sa chronique Essentielle BO la nouvelle perle des studios Pixar, Vice Versa, et rendra un hommage bien mérité au Dracula le plus mythique, j'ai nommé Christopher Lee, qui a disparu récemment. Mais en attendant, mon actualité, c'est d'abord ceci. Un extrait d'une œuvre de Charles Ives, une œuvre assez envoûtante et assez brève d'ailleurs, qui s'appelle The Unanswered Question. La question sans réponse, et pourquoi du Charles Ives, en l'occurrence dirigé, enfin avec le New York Philharmonic dirigé par Leonard Bernstein, pourquoi du Charles Ives donc pour démarrer ce cinéma song? Bah parce que cette musique figure de manière lancinante et répétitive, mais dans le bon sens du terme, dans un film qui est sorti hier, The Valley of Love de Guillaume Niclou, qui est un film français, mais dont l'action se passe, on pourrait dire, dans la vallée de la mort. Et les deux protagonistes principaux, vous le savez peut-être déjà, parce que ça a été un peu dit un peu partout, ce sont Gérard Depardieu et Isabelle Huppert qui se retrouvent dans cette vallée de la mort par l'intermédiaire d'une lettre que leur a laissée leur fils qui s'est suicidé et qui prétend revenir comme une sorte de fantôme qui plane voilà, sur cette histoire. C'est un film très étrange qui fonctionne beaucoup sur la présence physique, on pourrait dire, de Isabelle Huppert et surtout de Gérard Depardieu qu'on n'avait pas vu depuis longtemps aussi bien et aussi habité dans ce film, avec un jeu qui n'est pas du tout cabot, très loin de ses apparitions médiatiques récentes. Et le film est très passionnant et est très étrange également par l'utilisation de la musique, justement, qui apporte beaucoup à ce climat. Bon, la Vallée de la Mort, c'est un lieu à la fois mythique, mais en même temps, c'est aussi un lieu touristique. On a un peu ces deux dimensions dans le film, et cette musique qui revient régulièrement, cette musique de Charles Ives, qu'on dirait d'ailleurs composée pour un film, sans doute que Charles Ives a eu et fait partie aussi des compositeurs qui ont influencé un certain nombre d'autres compositeurs pour la musique de film. Mais en tout cas, on dirait cette musique écrite pour ce film notamment, et ça fait partie vraiment de la réussite de ce Valley of Love, donc signé Guillaume Niclou, avec Gérard Depardieu, Isabelle Huppert et je pourrais dire Charles Ives en troisième personnage en quelque sorte. Alors un autre film, on a beaucoup d'actualités ce soir, donc on va avoir une grosse séquence, notamment sur des films qui viennent de sortir. Un autre film étrange et passionnant, c'est The Duke of Burgundy, donc signé Peter Strickland, un cinéaste anglais dont on avait déjà parlé dans cette émission il y a 2 ans à propos de son film précédent qui s'appelait The Barbarian Sound Studio, qui était un hommage à Dario Argento et au Giallo à travers les mésaventures d'un ingénieur du son. Cette fois, on est à la fois toujours un peu dans un climat d'hommage aux années 70, mais on serait plutôt du côté du cinéma bis, on va dire du cinéaste espagnol un peu fou qui s'appelait Jess Franco, ou de quelques œuvres voilà, légèrement érotisantes comme il y a pu en avoir à cette époque. Ce film raconte l'histoire, enfin la relation sadomasochiste entre deux femmes dans un univers totalement clos où il est beaucoup question d'entomologie et de papillons. Cet univers, donc cette relation entre ces deux femmes est construite autour d'un rituel sadomasochiste, donc je le disais, et ce rituel se dérègle peu à peu. Et il n'y a pas d'hommes dans ce film, il n'y a que des femmes, il y a un climat très particulier. Le film est extrêmement tenu. Et la musique donc d'un duo qui s'appelle Cat's Eye, qui est un duo de filles, Cat's Eyes d'ailleurs, très exactement, qui ont, je crois, pris leur nom d'un manga japonais. Ce duo formé par Faris Badouane et Rachel Zefira apporte beaucoup au film également, puisque ces climats qui sont à la fois champêtres et en même temps inquiétants ont vraiment, là aussi, apporte quelque chose de vraiment décisif dans la mise en scène, dans le climat du film. Et c'est au fond ce qu'on attend d'une musique de film, c'est qu'elle, non seulement qu'elle ne soit pas là que pour tapisser un peu le décor ou pour donner des petites saveurs, mais qu'elle joue vraiment un rôle, on pourrait dire, à la fois structurel et esthétique dans la manière dont un film est mis en scène. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale de ce film qui s'appelle Carpenter Arrival. Carpenter Arrival, un extrait de la bande originale de The Duke of Burgundy, troisième long métrage de Peter Strickland. Et donc cette bande originale est signée par le duo Cat's Eyes. Et j'ai commis une petite erreur que je vais corriger grâce à mon camarade Charles-Pierre Vallière qui me l'a signalé. Ce duo donc que j'ai annoncé comme un duo essentiellement féminin, c'est sûrement l'influence du film lui-même où précisément il n'y a que des femmes, est en fait un duo mixte puisque Faris Badouane n'est pas une femme mais bien un homme. Donc je corrige cette petite erreur. Cat's Eyes n'est pas un groupe archi connu, donc peut-être que vous ne le connaissez pas comme moi, je ne le connaissais pas particulièrement avant de découvrir ce film et cette musique. En tout cas, vous pouvez trouver cette excellente musique qui, comme vous l'avez pu l'entendre, est souvent imprégnée un peu de clavecin, de hautbois, enfin voilà, cette instrumentation assez baroque, avec une petite touche années 70 qui est tout à fait bienvenue par rapport au style du film. Et vous pouvez trouver bien évidemment cette bande originale sur des plateformes, les bonnes plateformes de téléchargement que je ne nommerai pas pour ne pas faire de publicité. Alors on va poursuivre et terminer sur l'actualité, en tout cas vraiment des films qui sortent ou qui sont sortis hier avec des musiques intéressantes. Il y en a, encore une fois, il y en a eu pas mal. Et notamment le film Mustang, ce film turc, premier long métrage donc d'une jeune cinéaste qui est d'ailleurs franco-turque puisqu'elle est sortie également de la FEMIS, une sorte de Virgin Suicide qui se passe dans la campagne turque, donc avec cinq filles enfermées, entre quelque sorte dans une maison et qui essayent de sortir à tout prix. Puisqu'elles sont, en fait, on essaye de les marier de force. Et évidemment, le culte de la virginité est très fort dans cette région et dans ce pays, à ce moment précis où se passe le film. Et le film a beaucoup d'énergie, n'est peut-être pas aussi fort que ce que la presse peut en dire. Enfin, ça n'est que mon avis. Mais la musique, donc, de Warren Ellis apporte pas mal, là aussi, au film. C'est une espèce de climat à la fois un peu ambiante et en même temps avec des petits parfums ethniques. La réalisatrice s'appelle Denise Gams Erguven et elle va sûrement récidiver, je pense, après ce qui s'annonce sans doute une révélation, du moins probablement un petit succès. En tout cas, on va écouter un extrait de cette bande originale qui s'appelle l'extrait The Cold Bolts. Thank you. deux musiques pour le prix d'une, si je puis dire. En tout cas, la première, c'était donc un extrait de la bande originale de Mustang, le film de Deniz Gamze Erguven, j'espère que je prononce bien, une cinéaste turque qui a fait des études en France, à la FEMIS notamment. Et l'extrait s'appelait The Cold Ball, c'est la musique qui a été composée par Warren Ellis, alors qui lui aussi est d'ailleurs, il est australien, il n'est pas turc, mais on le connaît surtout pour ses collaborations très importantes pour le cinéma et même pour le rock, avec Nick Cave, mais il travaille de plus en plus tout seul. Et Warren Ellis habite également à Paris, donc c'est aussi un exilé parisien, c'est finalement le thème de ce soir, en tout cas le thème de cette séquence, une cinéaste turque, un musicien australien pour une BO vraiment réussie qui paraît chez Milan, et un film qui s'annonce en tout cas sous les meilleurs auspices pour ses entrées, et un premier film donc, et qui était à la quinzaine des réalisateurs. Et juste à l'instant, on a écouté un extrait de la bande originale d'un autre film qui est sorti lui aussi hier, La résistance de l'air de Fred Grivois, premier film également, très différent de Mustang, un extrait d'un film qui s'appelait La mort du père, composé par deux étrangers, si je puis dire, qui sont en France, Evgeny et Sacha Galperine. Heureusement qu'il y a des étrangers en France quand même pour nourrir un peu notre terreau, c'est bien de le rappeler de temps en temps. Et Evgeny et Sacha Galperine sont d'origine russe, mais vivent en France et travaillent en France très largement. On en reparlera d'ailleurs très largement justement la semaine prochaine, puisqu'ils seront nos invités autour de leur travail. Ça fait partie ainsi un peu des nouveaux venus dans la musique de film, mais leur travail notamment sur ce film La résistance de l'air, donc qui est, je le disais, un premier film de Fred Grivois, ex-assistant de Jacques Audiard, qui réalise un polar sur un personnage donc formidablement interprété par Reda Kateb, qui est vraiment un acteur qui monte et qui est un acteur passionnant, qui sur un champion de tir, en tout cas quelqu'un qui fait du tir pour le plaisir, et qui se retrouve engagé comme tueur à gages pour résoudre ses problèmes d'argent. Tout ça ne va pas se passer très très bien. Je vous laisse le soin de découvrir le film. Le film est assez rigoureux et réussi dans un genre, le polar français, qui est parfois assez ingrat. Et puis la musique de Evgeny et Sacha Galperine réussit et est très bien utilisée dans le film. Donc c'est notable. C'était le cas de la plupart, enfin de toutes les musiques et de tous les films dont on a parlé ce soir. C'est pour ça qu'il y avait autant d'actualité donc sur les films récents. Et on va terminer ce tour d'horizon d'actualité par un film qui lui est moins récent, enfin par une série de films qui sont moins récentes et qui datent plutôt des années 70. Il s'agit de films de Werner Herzog, la parution du deuxième volume des coffrets Werner Herzog, qui avait donc commencé à la fin de l'année 2014. On en avait largement parlé avec Werner Herzog lui-même dans Cinémasong. Si vous êtes un auditeur fidèle, vous en souvenez peut-être, c'était au début du mois de décembre 2014. Et là, donc, je ne pouvais pas manquer de vous parler, de vous annoncer aussi la parution de ce deuxième volume avec des films importants comme Nosferatu, Le fantôme de la nuit, pour la première fois en Blu-ray d'ailleurs, comme Fitzcarraldo, comme Wojciech, ou évidemment tous ces films avec Klaus Kinski, des films moins connus, des films des documentaires, comme notamment un film qui s'appelle Fric et foi, et puis un film très étrange autour d'un souffleur de verre, enfin autour d'un secret perdu pour fabriquer le verre, un film qui s'appelle justement Cœur de verre, très très curieux film avec des acteurs qui jouent un peu sous hypnose, semble-t-il. Film, enfin, fait partie de cette œuvre très particulière de Werner Herzog, avec évidemment tous ces films, les musiques du groupe phare des films de Werner Herzog et un des groupes phares du krautrock allemand de cette époque, Popolvuh, le groupe de Florian Fricke. Et je vous propose, pour illustrer cette sortie événementielle, c'est vraiment un très très beau travail que font les éditions Potemkin autour de l'œuvre de Werner Herzog. Et normalement, il y aura encore deux autres coffrets qui viendront quasiment constituer une intégrale Werner Herzog. Je vous propose d'écouter donc un extrait de la bande originale de Cœur de verre qui s'appelle Utter der Schwelle. We'll be right back. und Utter der Schwelle, pardon pour la prononciation, un extrait de la bande originale de Cœur de Verre, signé donc la bande originale Popol Vuh, un film de Werner Herzog qui figure donc parmi d'autres classiques, parmi d'autres films importants de la fin des années 70 notamment, dans le deuxième coffret donc consacré à l'œuvre complète de Werner Herzog, un énorme travail, un très beau travail, entrepris depuis l'an dernier par les éditions Potemkin qu'il faut saluer. On peut signaler d'ailleurs également un autre film qui sort aux éditions Potemkin, qui est sorti aux éditions Potemkin cet an dernier, qui était fort intéressant, c'est L'homme qui venait d'ailleurs, de Nicolas Roeg avec David Bowie, un film qui a été longtemps rare et qui est passionnant à découvrir. Et également, puisqu'on parle de cinéma allemand, aussi un remarquable DVD d'un film rare, très rare, de Volker Schlöndorff chez Carlotta, Bahal, d'après une pièce de Brecht, avec Rainer Werner Fassbinder à ses tout débuts de cinéaste, mais surtout d'acteur en l'occurrence, puisqu'il était aussi acteur et il joue le rôle principal de ce film assez étonnant, qui est vraiment une redécouverte totale. Donc tout ça, c'est l'actualité du DVD, on aura l'occasion d'en reparler dans les deux prochaines émissions, qui seront les deux dernières de la saison, je vous le rappelle. Et maintenant, place à Paul Misraki.
Une chanson, c'est une création spontanée, c'est une chanson. Tandis que la musique de film, ça demande une adaptation au film pour lequel cette musique est composée. En plus, on avait autrefois le droit d'utiliser de grands orchestres pour enregistrer de la musique de film, et ça m'a donné l'occasion de faire de la musique dont je ne suis pas mécontent. Et c'était aussi l'obligation de faire chaque fois une musique un peu différente selon le genre du film, même quelquefois tout à fait différente, puisque ça pouvait passer du film comique au film drame noir, et il fallait que la musique soit en rapport avec le style de ce film et en même temps soumise au goût du réalisateur qui, s'il savait exactement ce qu'il voulait, pouvait me dire, voilà, fais-moi quelque chose dans ce genre-là. Alors il fallait que je fasse quelque chose dans ce genre-là et pas autre chose. Et cette variété m'a beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé travailler dans cet ordre d'idées où il ne fallait jamais faire deux fois la même chose.
Extrait de la bande originale de Monsieur Arkadine, un film mythique d'Orson Welles, 1956, dont la musique a été composée par Paul Misraki. Paul Misraki, grand compositeur français, dont on entendait la voix juste avant dans une archive datant de 1991, 7 ans avant sa mort, puisqu'il est mort le 29 octobre 1998 et qu'il était né le 28 janvier 1908. Alors, il n'y a pas d'actualité particulière de Paul Misraki. J'avais juste envie de rendre justice et rendre hommage à ce grand compositeur français dont on a finalement rarement parlé dans Cinéma Song et dont on parle pas si souvent. C'est peut-être la rétrospective, enfin l'actualité autour d'Orson Welles justement qui m'a donné cette idée, cette envie de parler de Paul Misraki. Orson Welles, j'en avais déjà parlé dans une autre émission la saison dernière, ou la saison d'avant d'ailleurs. Voilà, on peut aller évidemment revoir les films d'Orson Welles à la Cinémathèque française, à l'Institut Lumière. Des DVD nombreux et variés sont ressortis, notamment par les éditions Carlotta, Macbeth, Othello, notamment les adaptations shakespeariennes de Orson Welles, et Monsieur Arcadine d'ailleurs, qui ressort également en DVD. Donc c'est, il y a toute une actualité Orson Welles, et c'est toujours évidemment extrêmement excitant et intéressant de retrouver et de redécouvrir cette œuvre fiévreuse, baroque, et qui n'a pas tellement vieilli finalement, et lyrique. Orson Welles a travaillé avec des musiciens passionnants, évidemment, comme Bernard Herrmann à ses débuts, ou Jacques Ibert, ou également même Martial Solal pour Le Procès. Enfin, en tout cas, Martial Solal a participé à la musique du Procès, même Michel Legrand pour son dernier film Vérité et Mensonge. Mais la collaboration avec Paul Misraki reste une des plus intéressantes en ce qui concerne donc Monsieur Arcadine. Alors, je disais, Paul Misraki fait aussi partie donc des étrangers, ou en tout cas des personnages cosmopolites qui ont traversé, à la fois né à Constantinople en Turquie, passe une partie de son enfance à Bucarest, puis arrive en France finalement, où il fait ses études au lycée Janson de Sailly, et il apprend l'harmonie et le contrepoint auprès de Charles Koechlin, donc compositeur français et pédagogue important. Et puis la première partie de sa carrière va surtout être consacrée à la chanson, avec évidemment Ray Ventura et son orchestre, et là évidemment les grands succès qu'on connaît, Tout va très bien, Madame la Marquise, et beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup, beaucoup, des grandes chansons de Ray Ventura. Moi, je suis un fan, d'ailleurs, de Ray Ventura également. Mais peu à peu, Paul Misraki qui avait envie de faire de la musique symphonique, qui avait envie de faire de la musique tout court, on pourrait dire, hors de la chanson, va se trouver impliqué dans le cinéma, notamment à travers les films d'Henri Decoing, avec Daniel Darieux, notamment Battement de cœur, au début, à la fin des années 30. Et puis, après-guerre, il sera de plus en plus fréquemment impliqué dans des films. On peut penser notamment à Manon, de Henri-Georges Clouzot, et un des cinéastes avec lequel il va le plus travailler. Il a travaillé avec beaucoup de cinéastes qui ont compté dans le cinéma français, y compris Jean Renoir. On en reparlera, en tout cas, de Roger Vadim. On parlera de Jacques Becker. On parlera pas de Louis Buñuel, mais il a également travaillé avec Louis Buñuel dans sa carrière française. Et un des cinéastes avec lequel Misraki a le plus collaboré, notamment justement pour des musiques plus symphoniques, c'est Jean Delannoy. On va écouter deux extraits de deux films un petit peu oubliés, que sont La Minute de Vérité et Chien perdu son collier, mais les musiques sont intéressantes. Thank you. charme de cette musique très française avec cet accordéon composé par Paul Misraki, personnage assez cosmopolite dans le bon sens du terme, mais qui était également très français. Donc c'était pour Chien perdu sans collier, qui n'a pas laissé une trace impérissable dans les mémoires, film de Jean Delannoy, et auparavant une musique pour un autre film de Jean Delannoy qui est un des cinéastes avec lequel Misraki a le plus travaillé, La Minute de Vérité, 1951, une musique plus symphonique avec des accents un petit peu ravéliens. Et on peut dire que de toute façon Paul Misraki fait partie du panthéon un peu des grands compositeurs français de cette génération des années 30, 40, 50 avec Maurice Jaubert, Joseph Kosma ou Georges Vamparis par exemple. Il y en a d'autres des moins célèbres. C'est une période très riche dans l'histoire de la musique française et notamment de la musique de film. Alors on va continuer avec Paul Misraki pendant toute cette émission jusqu'à minuit. Paul Misraki qui a travaillé, je le disais, pas mal de grands cinéastes français, notamment avec Jacques Becker, un cinéaste que j'affectionne tout particulièrement pour un film qui n'est pas parmi ses plus célèbres, son avant-dernier film, Montparnasse 19, pour lequel Misraki a composé une musique à partir de quatre notes. C'était la commande, en quelque sorte, de Jacques Becker, et il s'y est tenu pendant tout le film, et ça donne notamment ça.
En ce qui me concerne, j'ai commencé par être autodidacte, en ce sens que je me suis précipité au piano dès que j'avais assez les jambes assez longues pour courir, et j'ai toujours essayé de trouver des airs. Mais c'est que plus tard que j'ai compris que ça ne suffisait pas, que le fait d'avoir quelques facilités pour composer des airs ne suffisait pas et qu'il fallait prendre quelques leçons d'harmonie. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment appris ce que c'était que la musique. J'ai pris des leçons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec Charles Quéclin, qui était un grand maître à cette époque-là. Et depuis, mon goût me porte plus souvent vers le symphonique, mais ma carrière a été surtout une carrière de chanson. Et c'est grâce à la musique de film que j'ai pu donner libre cours à mon envie d'écrire de la musique sérieuse. Et on pourrait peut-être écouter un morceau de ce que j'appelle de la musique sérieuse avec celle d'un film que j'ai beaucoup aimé faire qui s'appelait Montparnasse 19 de Jacques Becker et qui racontait la vie du peintre Modigliani. Thank you.
Modigliani, chez lui, un extrait de la bande originale de Montparnasse 19, ce film de Jacques Becker consacré, comme le disait Paul Misraki lui-même, l'auteur de cette musique bien sûr, à la vie, enfin c'est une sorte de biopic, le mot n'existait pas encore à l'époque, de Modigliani, avec Gérard Philippe dans le rôle titre, enfin dans le rôle de Modigliani, et Anouk Aimée dans le rôle de Jeannet Buterne, sa muse et sa maîtresse, et également Lino Ventura dans le rôle d'un marchand de tableaux, qui dans mon souvenir n'est pas extrêmement sympathique, comme le sont souvent les marchands de tableaux d'ailleurs dans les biographies de peintres. Donc on a écouté d'ailleurs auparavant un autre extrait de cette musique que je le disais, composée autour de 4 notes qui reviennent inlassablement et obsessionnellement pendant tout le film. C'était une des musiques préférées, comme le disait Misraki lui-même, de ce grand compositeur dont on parle ce soir, Paul Misraki, donc pour ce cinéma song. Alors Paul Misraki le disait lui-même pendant cet archive qui datait de 1970. Il a aimé faire de la musique de film parce que ça lui a permis de pratiquer de la musique symphonique, mais dans la musique de film, il a également largement donné une grande place, enfin il a donné une grande place au jazz, qui était aussi un vocabulaire qu'il maîtrisait parfaitement, on l'avait bien évidemment entendu avec Ray Ventura et son orchestre, et en particulier dans un film qui est resté célèbre dans l'histoire du cinéma français, « Dieu créa la femme », avec cette fameuse danse de Brigitte Bardot, qu'on avait d'ailleurs évoquée en début de saison. On va écouter un extrait de cette musique mythique, et Dieu créa la femme, et puis également un autre film dans lequel figure également Brigitte Bardot en effeuillant la marguerite, une musique de striptease. Paul Misraki savait tout faire.
Thank you.
Paul Misraki à dominante plutôt jazz, à l'instant une musique de striptease pour le film En effeuillant la marguerite de Yves Allégret avec Brigitte Bardot, et auparavant une autre musique, alors jazz mais je dirais plutôt tendance afro-cubaine ou mambo, pour le fameux Et Dieu créa la femme de Roger Vadim, évidemment avec Brigitte Bardot également, une musique et une séquence surtout de danse restée absolument dans toutes les mémoires et absolument mythique. Alors on va continuer avec Paul Misraki mais sur le registre de la chanson, puisque bon, la chanson il connaissait très bien, Paul Misraki avec, on l'a déjà dit, Ray Ventura et son orchestre, mais également aussi avec, par exemple, Edith Piaf. Et dans les musiques de films, dans les films de cette époque, des années 50 notamment, il y avait fréquemment des chansons dans les films. Il y en avait d'ailleurs aussi dans les films des années 60, des films de la Nouvelle Vague. Et on va écouter deux interprètes que j'aime bien et qui sont assez différents l'un de l'autre. D'abord, une femme délicieuse par sa voix, qui est un peu l'équivalent de Mireille pour les anglo-saxons, qui est Blossom Dearie, qui est une chanteuse plutôt de jazz, pianiste également, pour une chanson qui s'appelle L'étang, dans un film qui n'a pas non plus laissé un souvenir impérissable, c'était Sans famille. Et puis juste après, Jean-Claude Pascal, qui fut une sorte de crooner français dans les années 50, début 60, pour une musique d'un film de Jean Delannoy, Le rendez-vous, avec des paroles de Jean Dréjac.
Sur la langue, au bord de l'étang, où la brume est bleue, sol, je flanc et l'ombre s'étend dans le soir fouillu. Là, le ciel, pour quelques instants, garde encore de l'or dans ses yeux. Une étoile a brûlé au fond de l'étang pour les amoureux. J'ai mes rêves, j'ai la nuit et l'odeur des fleurs épanouie. J'ai le chant des roseaux, les nuages glissants sur les eaux, et je viens m'attendre au bord de l'étang où la brume est bleue. Seul je songe et l'ombre s'étend dans la soif fouillue. Pour quelques instants, garde encore de l'or dans ses yeux. Une étoile a brûlé au fond de l'étang pour les
café bien tranquille, c'est le rendez-vous avec le temps fou. Souvent, malgré nous, dans un vieux quartier de la ville, content malgré tout, on prend rendez-vous avec notre jeunesse. Le latin grec et les promesses, cœur au bec, prénoms enlacés, savamment tracés sur les arbres grisés. De vin doux, un soir j'ai gravé dans le marbre ton cœur d'âme doux au cœur du moins doux. C'est le rendez-vous des printemps de nos années folles. C'est le rendez-vous avec le temps fou. Mais ce rendez-vous est comme une auberge espagnole, chacun trouve en lui ce qu'il y a mis. Chacun son amusette et son danger, dans sa musette s'arranger pour les yeux mouillés quand on voit briller ces vingt berges largos. C'est si doux, ça vient tout seul quand on gamberge. Margot, Marie-Lou, vous souvenez-vous? Souvenez-vous de nos rendez-vous.
«
Jean-Claude Pascal à l'instant pour le rendez-vous, chanson du film éponyme Le Rendez-vous en 1961, un film de Jean Delannoy, et en 1961, le crooner français, chanteur de charme Jean-Claude Pascal, gagnait également le concours de l'Eurovision pour le Luxembourg, et non pas pour la France. Bon voilà, c'est grâce à Cyril Svetozevitch et Bruno Rioux-Maillard que j'ai pu avoir cette information précieuse, donc je les en remercie. Et auparavant, l'américaine, qui a vécu également en Angleterre et en France dans les années 50, la délicieuse Blossom Dearie avec sa voix comme ça très charmante pour la chanson du film Sans famille, l'étang. Les paroles étaient également d'ailleurs signées Paul Misraki pour ce film. Alors on va arriver dans un secteur, si je puis dire, que Paul Misraki qui a été important pour Paul Misraki aussi à la fin des années 50 et au début des années 60, c'est la nouvelle vague. Paul Misraki avait beaucoup travaillé avec les réalisateurs de l'ancienne vague, je le disais, notamment Jean Delannoy, qui était plutôt peu aimé par les jeunes turcs des cahiers du cinéma, des cahiers jaunes des années 50, et qui était même un des cinéastes les plus détestés par cette génération. Et puis est arrivé les cinéastes de la nouvelle vague, et notamment Claude Chabrol, avec lesquels Paul Misraki a travaillé d'une manière très naturelle, comme quoi il était possible de passer de l'ancienne à la nouvelle vague sans difficulté. Tout le monde ne l'a pas fait, mais Misraki, lui, l'a fait. Et avec Claude Chabrol, Paul Misraki a travaillé sur deux films à part entière, Les Cousins et À double tour, et également sur quelques morceaux dansant dans Les Bonnes Femmes. On va écouter d'abord un extrait de la musique des Cousins, donc deuxième long métrage de Claude Chabrol avec Gérard Blin et Jean-Claude Brialy, et la musique de Paul Misraki.
Je crois qu'il y a deux façons de considérer la musique de film. Celle de l'ancienne vague, qui était ce qu'on peut appeler la musique d'accompagnement, si on veut. C'est de la musique qui accompagne l'image et qui en fait partie, et qui la commente, et qui se mêle au décor, à la situation, au sentiment des personnages. Mais il est arrivé un moment, justement, à l'avènement de la nouvelle vague, où on a considéré qu'il y avait double emploi entre ce qui se passait sur l'écran et ce que disait la musique, que c'était un pléonasme, qu'il fallait éviter. Et c'est depuis ce moment-là qu'on a commencé à faire de la musique qui prend le contre-pied de ce qui se passe dans le film. Personnellement, j'ai bien fait de temps en temps l'effort de me soumettre à cette mode, mais ce n'était pas le cas quand j'ai fait les films dont vous venez de parler, notamment avec Claude Chabrol, qui aimait bien la musique traditionnelle, et j'ai fait pour lui la musique de Les Cousins et de À double tour. Et dans À double tour, c'est de la musique tout à fait traditionnelle qu'il m'a demandé de faire, et que je lui ai faite.
De la musique de À double tour, le troisième long métrage de Claude Chabrun, un extrait qui s'intitulait Les Coquelicots, une musique composée donc par Paul Misraki pour ce troisième long métrage de Claude Chabrol à redécouvrir. Un film avec des accents évidemment un peu de policier, mais très particulier, avec Jean-Paul Belmondo, un jeune Jean-Paul Belmondo qui était entouré par des acteurs qu'on a moins en tête aujourd'hui, comme Madeleine Robinson ou Jacques Dacmin. C'est un film très, très intéressant qu'on peut vraiment revoir. L'archive qu'on entendait auparavant nous permettait justement d'entendre la voix de Paul Misraki en 1978. Parlons justement de Claude Chabrol notamment et de la Nouvelle Vague. Et puis auparavant, une musique plus jazz pour le deuxième long métrage de Claude Chabrol, Les Cousins, musique toujours signée Paul Misraki. Alors on va terminer avec justement deux musiques qui relèvent de la Nouvelle Vague, on pourrait dire aussi, même si la première ne l'est pas tout à fait. Et deux musiques parmi les plus importantes dans la riche carrière de Paul Misraki, qu'on aura eu seulement l'occasion de survoler. Je dois d'ailleurs, si vous vous intéressez à Paul Misraki, vous pouvez retrouver toutes ses musiques dans une série de 4 CD qui avaient été conçus par Stéphane Lerouge en 1998 pour le label Pomme Musique, où on retrouve beaucoup des musiques de Paul Misraki de différentes époques, des années 50-60 notamment, pas la totalité bien sûr. Enfin, en tout cas, un choix très intéressant dans lequel j'ai puisé moi-même ce soir. Et donc, je le disais, on va écouter la musique, enfin un extrait de la musique que Paul Misraki avait composé pour le Doulos de Jean-Pierre Melville, avec également Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani, Michel Piccoli, notamment un des films importants de Melville, qui était très exigeant, notamment sur la question musicale. Donc ça, c'était en 1963, une époque très intéressante pour le cinéma de Melville. Et puis on écoutera aussi la fameuse valse pour Alphaville de Jean-Luc Godard, qui était composée par l'éclectique Paul Misraki, qui aura vraiment travaillé avec tout ce que le cinéma français comptait, de cinéaste, de Jean Boyer, cinéaste très populaire, à Jean-Luc Godard, donc pour cette Alphaville. Et puis il aura également l'occasion de travailler aussi pour le premier film de Patrice Lecomte en 1975, Les WC étaient fermés de l'intérieur, mais en attendant, Le Doulos. Thank you.
Thank you.
valse triste composée par Paul Misraki pour le film de Jean-Luc Godard, Alphaville, avec bien sûr Lino Ventura, qu'est-ce que j'allais dire, Eddie Constantine dans le rôle de Lemmy Kosion, et également Anna Karina, et également un acteur, Hakim Tamirov, qu'on retrouve dans beaucoup de films d'Orson Welles. C'est d'ailleurs parce que Paul Misraki avait travaillé pour Monsieur Arcadine, dont on écoutait au début de cette longue séquence de Paul Misraki, dont on écoutait un extrait, que Godard avait demandé à ce compositeur fameux, Paul Misraki, de lui composer cette musique. Et auparavant, on a écouté une musique typiquement melvillienne, slow pour vibraphone et trombone, extraite de la musique du Doulos, donc de Jean-Pierre Melville, le film, avec cette musique de Paul Misraki, donc qui, je le disais, pratiquait aussi bien le jazz que la musique symphonique, comme on a pu l'entendre tout au long de cette émission. Peut-être deux, trois éléments biographiques pour terminer sur Paul Misraki qui sont intéressants à connaître si on aime ce personnage. Paul Misraki était juif, sa mère et sa tante sont mortes à Auschwitz, mais il s'était converti au catholicisme un peu plus tard, et entre autres activités en dehors de la musique, il avait également publié une série de livres relatant sa trajectoire spirituelle, notamment des livres autour des ovnis et de la vie après la mort. Donc c'est un aspect de la carrière de Paul Misraki qu'on connaît mal et qui pourtant l'a beaucoup occupé dans les dernières années de sa vie, enfin même assez tôt d'ailleurs, mais surtout dans les années 60-70. Paul Misraki, qui est un musicien qui était très apprécié de ses confrères, et notamment de Michel Legrand, avec lequel il avait noué un lien d'amitié tout à fait important. Et bien maintenant, c'est l'heure de la chronique de Charles-Pierre Vallière, Essentiel BO. Il est là, il est dans le studio. Bonsoir Charles-Pierre.
Bonsoir Thierry.
Dites, tu aimes ça, la musique ?
La musique ? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors pour commencer cette chronique, je vous propose d'écouter la nouvelle musique de Michael Giacchino pour le film d'animation Vice Versa, dernier né des studios Pixar. Alors il faut dire que Michael Giacchino est compositeur le plus en vue en ce moment à Hollywood. Il est souvent comparé à John Williams et il a une actualité discographique considérable, puisque en février sortait Jupiter Ascending, souvenez-vous. Alors je vous parlais il y a à peine un mois de la bande originale classique et conventionnelle de Tomorrowland de Michael Giacchino toujours. C'est à lui que l'on doit aussi la bande originale classique et conventionnelle de Jurassic World, sortie la semaine dernière. Et cette semaine, eh bien, c'est la bande originale de Vice Versa qui sort. Donc c'est un peu un retour au film d'animation pour Giacchino, qui avait déjà fait les bandes originales de Ratatouille et de Là-haut. Et on pouvait donc s'attendre à une bande originale classique et conventionnelle pour Vice Versa. Eh bien non, c'est une surprise. Giacchino vraiment sait se renouveler lorsqu'il est bien inspiré. Et donc pour cette histoire écrite et réalisée par Pete Docter, qui avait fait justement Monstre et compagnie, ainsi que Là-haut, donc Up en anglais, eh bien... alors oui, absolument. Il a très fréquemment écrit des scénarios, notamment des scénarios pour Wall-E et bien d'autres encore. Donc effectivement, c'est un des piliers des studios Pixar, Pete Docter. Et donc là, cette fois-ci, donc pour Vice Versa, on rentre dans la tête d'une jeune fille de 11 ans, donc Riley, qui est guidée en fait par ses émotions, qui sont personnifiées. Il y a joie, il y a peur, il y a colère, il y a dégoût, il y a tristesse. Et donc elle constitue son identité. Et donc Giacchino vraiment s'en donne à cœur joie pour varier les styles avec un thème mélodique prédominant qu'on a un petit peu entendu là sous le micro. On lui sent vraiment une liberté totale. Il y a alors certes des thèmes classiques, une orchestration classique, mais il y a aussi beaucoup de musique qui rappelle un peu les comédies musicales et aussi le jazz. Mais globalement, eh bien, on a plutôt un retour aux sources des Disney, du genre Le Livre de la Jungle, dans la construction musicale, que le genre Pixar, où la musique n'avait pas vraiment une grande différence avec le cinéma de prise de vue réelle. We'll be right back. Voilà, c'était un extrait de la bande originale de Vice Versa qui est sorti donc chez Walt Disney Records depuis le 16 juin. Alors attention, si vous voulez vous procurer la BO, elle est sous le titre anglais, donc Inside Out, et non pas Vice Versa, qui est le titre français. Et puis donc à présent, je voulais rendre hommage à Christopher Lee, qui est décédé donc la semaine dernière, acteur magnifique et charismatique qui aura vraiment marqué le cinéma des années 50 à aujourd'hui et dont le nom sera jamais associé à celui du comte Dracula. Alors Christopher Lee est devenu en fait avec Peter Cushing, hein, qui lui souvent avait le rôle de Van Helsing ou même d'ailleurs de Sherlock Holmes dans le Chien des Baskerville, un acteur emblématique de la Hammer Film Production, donc compagnie britannique. La Hammer était spécialisée vraiment dans les films d'horreur, les films d'épouvante. Et en ce qui concerne la musique, eh bien Christopher Lee a croisé le chemin du compositeur James Bernard, qui s'est épanoui vraiment dans la musique du cinéma d'épouvante. Alors Bernard, il faut le préciser, est né en 1920, il est mort en 2001. C'est à l'origine en fait un scénariste qui est devenu musicien et compositeur. Donc il avait obtenu en fait pour son scénario Seven Days to Noon en 1950 un Oscar, et à la suite de cela, eh bien, il s'est dirigé vers la composition et la musique de film donc en particulier. Et James Bernard va vraiment devenir le directeur musical de la Hammer et va régner sur la composition du cinéma d'épouvante de la Hammer pendant plusieurs décennies. Bernard en fait a créé une bible de la musique de film d'horreur à partir des années 50-60. Pour s'en convaincre, en fait, il suffit de regarder sa filmographie, hein, Thierry. Alors, évidemment, les Dracula, on va pas tous les citer, mais il y a Le Cauchemar de Dracula, donc le premier. Ensuite, il y a Le Baiser du Vampire, Dracula, Prince des Ténèbres, Dracula et les Femmes, Une Messe pour Dracula, Les Cicatrices de Dracula, sans oublier également une collection de Frankenstein, bien sûr, Le Chien des Baskerville, dont je parlais tout à l'heure. Et donc, à chaque fois, la musique de Bernard est un savant mélange de mélodies douces et charmantes, parfois mélancoliques, contrastant justement avec des accords stridents et des musiques emphatiques portées par des cuivres et des percussions très marquées, et oscillant entre donc musique religieuse aux accents gothiques et en restant évidemment dans un genre très symphonique, en faisant justement tout le charme de l'âge d'or des films de la Hammer. Extrait de la musique du film Le Cauchemar de Dracula, composé par James Bernard, donc réalisé par Terence Fisher qui a fait de nombreux films pour la Hammer. C'est une manière pour moi de marquer, enfin de rendre hommage à ce grand acteur qui est Christopher Lee, vraiment, et qui va nous manquer, et qui, bon, on peut l'espérer, comme c'est le comte Dracula, ressuscitera, on sait jamais.
On est certain, c'est dit, il avait 93 ans, donc il tournait plus beaucoup malgré tout, mais enfin on s'en souviendra très longtemps. Merci Charles-Pierre, et à la semaine prochaine. Ce soir j'étais en compagnie, enfin Dorothée Gol m'avait aidé à préparer cette émission, j'étais en compagnie de François Pron, de Cyril Zletozevich, de Benoît Latil qui était à la technique, et de l'incomparable Bruno Rioux-Maillard qui réalisait comme chaque semaine cette émission.